associer à des créatures intéressantes, mythologiques, etc.
Donc, et dans vos balades en forêt, vous êtes en mode « je suis stressé ».
Je suis stressé, je pense que j'en fais un loup-garou et tout. Alors, j'aime beaucoup, ça me ressource niveau imagination. J'imagine toujours, si je dis regarde la même feuille, un truc comme ça, et c'est toujours intéressant d'imaginer qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme créature et comment elle pourrait se dissimuler, et pourquoi elle serait là, et quelle serait l'histoire de son peuple. Enfin, si on a cette idée d'imagination de la forêt comme lieu, c'est vraiment un lieu qui me stimule.
Sur la forêt, je te rejoins entièrement parce que par exemple, la série que j'ai écrite pour les enfants, il y a une forêt effectivement qui détruit tout et qui absorbe tout sur son passage. Et elle est évidemment peuplée de créatures très étranges. Donc, et ce sont les enfants d'ailleurs qui avaient décidé, qui m'avaient demandé une histoire. En fait, ils travaillaient en collaboration avec les classes de CM1, CM2, qui m'ont demandé effectivement une forêt qui mange, qui dévore tout sur son passage et qui détruit avec des créatures très bizarres.
Est-ce que l'étrangeté du lieu implique des créatures étranges dans le lieu?
Oui, ce serait très difficile de mettre de simples humains dans une forêt. D'abord parce qu'elle présente de grands dangers. Donc évidemment, il faut avoir des capacités qui existent rarement chez les humains ordinaires. Et en plus, parce que ce serait beaucoup moins drôle, il faut être très clair. Ce qui est sympathique dans la fantaisie, dans toutes les littératures imaginaires, c'est justement de créer des personnages qui ne nous ressemblent pas, ou qui ont des pouvoirs ou des capacités que nous n'avons pas. Sinon, c'est beaucoup moins intéressant. Si c'est, dans ces cas-là, on fait de la littérature blanche et on se retrouve avec des histoires, des problématiques culturelles, économiques, actuelles ou passées, peu importe, mais d'une manière ou d'une autre, ça n'empêche qu'il peut y avoir quand même des relents d'humanité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a notre propre interprétation, donc pour le coup, voilà.
Cindy, pour vous, finalement, peut-être aussi pour Cassandra dans une autre série, mais pour vous, l'urbain, c'est déjà un lieu étrange.
Oui, tout à fait. Par contre, je vais revenir sur ce que Cassandra et Adrien disaient, puisque moi aussi, j'ai une forêt dans le premier tome, je vais jouer à la grosse copieuse, en fait. Mais par contre, ce que j'ai bien aimé donc, dans ce milieu qui est quand même hostile, puisque je le situe quand même au XIIIe siècle, donc ça fait quand même. Les forêts étaient quand même bien différentes à cette époque de ce que nous connaissons maintenant. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir l'opposition entre les créatures errantes et les étranges, même assez dangereuses, et par contre des humains lambda comme nous tous en fait. Et de voir un petit peu quel camp pouvait gagner et surtout de quelle manière ils pouvaient le faire.
Non, absolument. Moi, j'ai, justement, pour l'instinct du troll, j'ai eu véritablement envie de parler d'un endroit, d'une série d'endroits parmi les plus étranges où j'ai jamais pénétré, et peuplé de créatures qui, elles, étaient d'une dangerosité absolument sans précédent. Et c'était les salles de réunion. Et je me suis dit, à partir de là, c'est un petit peu comme le service des archives aussi. On n'y pénètre qu'à ses risques et périls. Et donc, je me dis, j'ai vraiment eu envie d'explorer cet univers-là que peu de gens connaissent, et tel l'aventurier armé de mon ordinateur et de mon compte-rendu, je suis allé assister à des réunions et j'ai pour la plupart survécu.
Est-ce que ça fait de vous une vilaine bestiole?
Oh, probablement. Je n'ai pas mis mon bras, parce que j'aurais pu le faire. C'est d'ailleurs très complet.
Bon, est-ce que vous pouvez concevoir justement des endroits étranges? Parce qu'on a parlé d'humanité et Cassandra nous a parlé du fait que dans l'imaginaire, c'était intéressant, c'était
sur les choses comme ça, mais d'une manière ou d'une autre, on essaie de cacher notre véritable nature, alors que ces créatures, pas forcément. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans Rebecca Kim, c'est qu'elle est justement non humaine et elle a effectivement aucune notion du bien et du mal. C'est-à-dire que.
Dans un premier temps, elle a quand même envie de se cacher. Si
elle dans un premier temps, elle se cache des siens, elle ne se cache pas des humains. C'est-à-dire que les humains ne lui font absolument pas peur. Mais pour le coup, elle peut, au fil des temps, elle devient humaine. C'est ce qui est intéressant dans Rebecca Kim, c'est justement du monstre, elle va vers l'humanité. Alors qu'on peut travailler d'une manière tout à fait différente. Effectivement, je pense que.
Oui, je pense que de toute manière, pour revenir à la question originale, tout à fait, moi je pense que les humains sont pas, enfin, ne peuvent pas être très différents des. Des animaux, des
habitants, l'animalité en
haut. Oui, absolument. En fait, ce qui m'intéressait, donc, comme je l'ai dit, c'est d'abord donc, cette opposition entre les créatures étranges, dangereuses, voire enfin, carrément menaçantes, qui prennent donc possession de cette forêt, et justement les villageois dans leur foyer qui se retrouvent menacés soudain et qui ne savent pas trop comment gérer ce danger. Et puis, au fil de la confrontation, c'était de voir justement de quelle manière l'un et l'autre pouvaient s'influencer.
Oui, comment l'étrangeté passe d'un camp à l'autre.
Exactement. Et surtout, de ne pas avoir justement de bon et de méchant prédéfini dès le départ, de pouvoir justement avoir ces zones de gris qui deviennent très intéressantes, puisqu'à ce moment-là, on entre vraiment dans la psychologie humaine.
Derrière chez vous, il n'y a pas tellement de zones de gris. En tout cas, dans Notre-Dame-des-Loups, pour ce qui est des bestioles, elles sont.
C'est
presque manichéen.
Pas forcément. En fait, c'est sur cette opposition que je voulais jouer sur l'opposition entre bestialité et humanité. Le Garou, pour moi, c'est l'exemple le plus parfait de cette dualité, de cette opposition. Effectivement, dans Notre-Dame-des-Loups, contrairement à certains autres types de romans, les loups-garous, c'est des méchants. C'est-à-dire que je n'essaie pas de d'écrire sur la rédemption du loup-garou. Et le loup-garou, c'est les humains qui succombent complètement à la bestialité, à l'animalité, mais qui sont pas uniquement. On peut dire que pour moi, le bien et le mal, je suis biologiste à la base, donc j'ai vite appris que les animaux gentils, les animaux méchants, ça n'existe pas. La nature fonctionne de la manière et que l'humanité a tendance à avoir développé des comportements différents. Les loups, en général, ne sont pas mauvais. C'est pas parce qu'ils s'attaquent aux moutons ou sont forcément des sales bêtes méchantes qui sont animées de mauvaises intentions. C'est complètement aberrant même d'imaginer ça. Sans être inquiété, de pouvoir chasser, de pouvoir se sentir puissant, violent, etc. Sans limite, sans contrainte, avec l'excuse, j'ai un animal, je fais ce que je veux.
Moi, j'ai un se lâche.
Moi, j'ai vraiment un lieu bizarre, et qui est en même temps une créature bizarre, qui sont ce que j'ai appelé des animaux villes, c'est-à-dire des villes dans deux romans de science-fiction, dont on a écrit La Carrière d'Arles, et on prépare un troisième, et peut-être Étoile mourante en particulier, dans lequel les villes sont des villes de chair et sont des villes vivantes. Ce sont des animaux villes et elles ont la taille d'une ville moyenne, une ville comme Épinal. Et la différence, c'est qu'elles sont couleur chair crue, en fait, d'une certaine façon. Et elles sont intelligentes et elles sont d'une certaine façon aussi réactives. C'est-à-dire qu'on communique avec elles en caressant les murs. Vous passez dans une ruelle qui est trop étroite, le simple fait de vous frotter va permettre d'ouvrir, le simple fait de danser à sa surface va obtenir des résultats intéressants. J'ai pas encore décrit, j'ai encore l'idée, mais j'ai pas encore décrit les orgasmes d'une
cette ville. Et donc, dans un lieu comme celui-là, l'être humain perd son humanité pour se rapprocher d'une animalité énorme, différente, qui, d'une certaine façon, le transforme véritablement en profondeur. Et ça m'intéresse, parce que je crois que dans un lieu étrange, l'être humain ne va pas rester lui-même. Il est amené, d'une façon ou d'une autre, de se comporter, enfin, faire appel à des ressources dans sa propre humanité qui le transforme en quelque chose de différent. Tu parles de ton loup-garou animé, mais ça peut être aussi le chasseur dans la forêt. Un chasseur dans la forêt, ce n'est pas quelqu'un qui va prendre le métro. C'est un type qui est attentif, qui est prêt à tuer, qui marche d'une certaine façon, qui ne marche pas droit, mais qui marche courbé à côté des branches, qui redevient près du sol, qui a des griffes au bout des doigts, qui sont souvent des poignards ou des armes. Donc c'est le retour, via une certaine façon d'être, à une animalité, effectivement, que le lieu impose.
L'environnement change d'essence des êtres. En fait, c'est exactement ça dans Malenfer, par exemple, dans le tome 2 pour les enfants. Dans la forêt, il y a une énorme évolution des deux personnages. C'est-à-dire que, pour le coup, ils changent. C'est-à-dire que l'un d'entre eux devient extrêmement dangereux. L'autre, écoute, va être transformé au contact de certaines créatures de la forêt et de ce qu'on appelle l'arbre-vie, par exemple, le père arbre. Et l'autre, par contre, va décider de détruire le cœur et l'âme de cette forêt. Pour sauver la ville et les habitants aux alentours. Donc effectivement, il y a une vraie évolution. Je suis d'accord avec de ce fait, je partage entièrement son avis, c'est-à-dire que les personnages et même les enfants évoluent au contact de cet univers étrange, et d'autant plus peut-être les enfants, qui sont eux-mêmes déjà en devenir et en mutation. Donc ils sont d'autant plus influencés par ça.
En tout cas, pour moi, c'est clair qu'en bâtissant une société secrète, donc c'était forcément une société qui entrait dans la clandestinité d'une certaine manière. Maintenant, je suis certaine que les outrepasseurs, s'ils existaient réellement, ne feraient pas ça de cet œil, puisque eux, en fait, le fait qu'ils aient ce secret autour de leur nature, autour surtout de leur entreprise, puisque c'est devenu carrément une entreprise pour eux, en fait, pour eux, c'est la source de leur pouvoir. Ils ont accès vraiment à un potentiel que personne jusqu'ici non seulement n'a exploré, mais en plus ne connaît. Donc forcément, pour eux, s'ils interagissent tous les jours dans le monde des hommes, si on peut dire qu'ils ont même un masque humain dans notre société, pour eux, leur véritable nature ne se situe pas parmi les hommes. Elle se situe vraiment dans la clandestinité, et pour eux, ils veulent certainement la garder.
Simplement, c'est retrouver d'autres gens qui sont différents comme nous, mais du coup, qui arrivent à mieux à se comprendre, même si c'est pour faire des petites communautés, ne serait-ce que, je ne sais pas, les communautés païennes qui essayaient d'échapper à l'église, par exemple, c'est que des gens qui se rassemblaient parce qu'ils étaient différents, mais ils pouvaient être différents ensemble. C'est quelque chose qui est une chose aussi. Et la revendication, c'est on est différent, on l'assume, mais on ne peut pas accepter. Et ça ne fait pas mal non plus. C'est surtout dans l'époque à laquelle on vit qu'on voit beaucoup de communautés qui jusqu'alors soit étaient isolées, soit étaient rassemblées et qui finalement maintenant osent se revendiquer.
pense que c'est une très bonne chose et que normalement toutes les différences, la plupart en tout cas, devraient finir par arriver à cette optique de revendication, de se faire accepter par la société.
Et ça dépend parce que, objectivement, ça dépend du danger de la société. C'est-à-dire que le problème, c'est par exemple dans les républiques Kin, il s'agit de plusieurs clans de créatures. Alors, ça peut être des chamans, des potionneuses, des sorcières, etc. Peu importe. Mais on imagine très bien qu'une fois qu'ils auront fait leur coming out, je ne pense pas que l'humanité les accepte aussi facilement du fait. Donc, ils savent qu'ils risquent d'extermination. Donc, effectivement, là, pour le coup, on est obligé de vivre dans la clandestinité. Ils vivent dans la clandestinité avec leurs propres règles, effectivement, en communauté ou pas, parce que pour les vitalistes, ce n'est pas forcément en communauté du tout. Mais pour le coup, là, on est obligé, il n'y a pas de revendication possible, parce que l'humanité est extrêmement dangereuse et qu'elle est beaucoup plus nombreuse. Donc, pour le coup, après, effectivement.
C'était l'idée que ce n'est pas parce qu'ils sont les plus nombreux qu'ils ont raison.
On peut, mais c'est une guerre perdue d'avance, c'est très compliqué. Dans ce cas-là, oui.
Dans
l'univers, il est hyper réaliste. C'est-à-dire qu'on imagine très bien ce que feraient les militaires, les hommes qui créeraient, les centres qui seraient évidemment créés pour mettre ces créatures hors de la société parce qu'elles présenteraient un danger quelconque et que les adultes et que les gens ont peur. Et ça, c'est vraiment très, très marqué dans Mal en fer. C'est-à-dire que dès que la peur existe, c'est pour ça que les enfants cachent, enfin surtout particulièrement Zoé, cache sa nature de diseuse, c'est parce que justement, elle sait très bien que sinon on va la brûler comme une sorcière. Et aujourd'hui, je ne pense pas que les choses aient tellement évolué. Donc dès que les adultes ont peur, c'est clair, ils agissent violemment. On le voit même quand ce n'est pas rationnel. Et ils sont d'autant plus dangereux quand ils ne le sont pas. Donc,
moi, j'ai pas du tout cette problématique-là. En fait, le problème de la différence est intégré depuis le début. Mais comme il y a plein de variétés différentes de genres, ben, ne serait-ce qu'en fantaisie, vous avez des trolls, vous avez des nains, vous avez des chevaliers, vous avez des ressources humaines, vous avez des nécromans, vous avez un certain nombre. Chaque loi a son truc en plus. Donc, vous êtes troll, vous êtes nécessairement différent d'un nain. Étant donné que vous êtes parfois plus grand que lui, en plus fait de pierre, le mot compétition, vous embête pas. Quoi. C'est un petit peu comme si vous disiez les coups de curie, ce sont des genres différents. Ouais, mais on n'a pas envie de leur taper dessus. Quoi. C'est à peu près la base. Pour moi, les différences, c'est un fait, mais ça ne me pose pas de problème. Effectivement, ce que dit Adrien, tout à fait juste dans notre société où certaines différences apparaissent, et où on dit, ben, c'est une différence, point barre, on vivrait avec. Je trouve ça particulièrement bon. Je me dis, ça m'intéresse d'écrire justement des livres dans lesquels, par exemple, l'homosexualité, c'est un truc qui est tellement évident, c'est tellement rentré dans les mœurs, c'est comme le fait d'être couché, et ben, on n'en parle pas, quoi. Le machin, il est avec truc, c'est peut-être le même sexe, c'est peut-être. Notre sexe, on s'en fiche. Bon, c'est comme ça. Ça m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, c'est de jouer avec ça dans les codes, parce que par exemple, dans la scène du troll, les elfes sont des trolls qui ont fait leur coming out. Et quand on voit la tronche d'Orlando Bloom, on comprend assez bien ce que je veux dire. Mais c'est à peu près ça, quoi. Bon. Et pour donner aussi un exemple de lieu, ben, la manière dont je traite, si je peux me permettre, je vais lire quelques lignes, mais c'est vraiment pas long. Pour vous montrer comment je traite les lieux étranges, donc j'ai mon troll qui se balade avec sa copine et qui dit « Tu crois qu'on peut couper par la forêt maléfique » dis-je quand le soleil s'effondre sur l'horizon, ça nous ferait gagner du temps. La lisière des arbres s'étend à quelques distances aussi sinistre et impénétrable que dans mon souvenir. La trouée que j'avais ouverte autrefois s'est refermée depuis longtemps. Une odeur de pourriture monte des souches déchiquetées et hérissées de champignons vénéneux luisant dans la pénombre. Ma trollesse secoue la tête. Impossible. Depuis que tu es parti, la situation s'est sérieusement dégradée là-bas. Les araignées géantes. Et cool. Pire, c'est devenu un parc naturel. On n'a plus le droit de piétiner quoi que ce soit depuis le massacre.
Ne protégeons pas les lieux étranges. Est-ce qu'à un moment, justement, la différence peut s'effacer et du coup, tous les lieux deviennent des lieux de normalité, des lieux assimilés aux autres. Est-ce que c'est souhaitable que de la même façon que les différences humaines pourraient s'effacer face à ce qu'on puisse vivre tous ensemble sans juger ou sans se regarder de travers, est-ce qu'il est souhaitable que tous les lieux deviennent des lieux de parfaite normalité sans aucune. Est-ce qu'il est important de garder les parcs naturels d'étrangeté?
De la même manière qu'on est toujours le compte à l'autre,
chez les Incas, comment ils ont fait pour construire des temples, on ne sait toujours pas. Voilà, pour les Égyptiens, on se demande encore comment ça a été vraiment construit, c'est des pyramides. On se dit, mais heureusement qu'il y avait mieux. Aujourd'hui, ça, on s'est rentré dans parce que ça fait des siècles, mais une réponse extraterrestre. Mais voilà, c'est une réponse extraterrestre. Mais ce qui est génial, c'est justement pouvoir, de pouvoir, enfin, d'avoir ça, c'est extraordinaire. On s'ennuierait terriblement.
Qui petit à petit clignote de la totalité de la surface de la Terre parce que les cartographes ne sont plus assez nombreux pour repousser ce territoire. Et ça, c'est un endroit totalement terrifiant pour moi parce qu'il a une apparence de normalité, mais il peut se défaire à n'importe quel moment. Il vous mange. Il vous mange au sens où il efface ce qui vous caractérise, il efface votre nom, il efface ce que vous êtes. Et ça, je me suis dit, est-ce que ça peut se produire? Et il y a des endroits dans l'espace, je pense au trou noir, je pense à un certain nombre de singularités. Dans lequel effectivement ce genre de choses arrivent, les lois même physiques sur lesquelles tout repose disparaissent. Et ces lieux-là sont toujours fascinants à observer. Le moins qu'on puisse dire, c'est que j'avais pas passé mes vacances.
Mais est-ce que certains lieux urbains où on est tous amis, enfin tous peut-être pas, mais où on est souvent amenés à vivre et à se retrouver perdus au milieu de la foule, perdus au milieu de la quantité, est-ce que ça, c'est pas aussi des lieux qui avalent notre humanité ou qui nous effacent d'une façon ou d'une autre? Est-ce qu'on réussit à rester soi dans la masse?
La question de savoir si on reste soi ou qu'on se trouve, et la question de la vie entière qu'on a, est-ce que je me transporte avec moi ou est-ce que je me dilue dans les autres, est-ce que je me dilue dans les lieux qui m'entourent? Ça, la réponse est propre à chacun et je ne peux te donner la mienne. Moi, je m'emporte avec moi toujours, j'ai ma place à tenir. Mais c'est vraiment ça,
les gens qui sont aux autres.
Et tu sais ce que disait Auguste Comte, il disait très difficile d'une fenêtre de se voir passer dans la rue. C'est véritablement ça, à un moment donné, on travaille avec soi son propre point de vue. Ou alors, on se dissout dans le point de vue des autres et on se regarde, on se voit comme les autres vous voient. C'est un choix, on est l'un ou on est l'autre. Si on se regarde comme les autres vous voient, on a d'assez fortes chances d'être malheureux. Si on se voit tel qu'on est soi-même, tel qu'on décide de se voir, on a de fortes chances d'être incompris. Ben, on oscille entre l'un et l'autre.
Super. Une troisième fois, quelqu'un.
Moi, je pense que c'était Terry Pratchett qui avait dit ça. Pour moi, la foule, j'avais vu de la même manière que lui. Ben, l'intelligence d'une foule, elle se mesure au QI des personnes la moins intelligente divisée par le nombre de personnes qui composent la foule. Ben, je suis assez d'accord qu'il y a des comportements qui n'existeraient pas si on ne se trouvait pas dans une foule. Il n'y a qu'à voir à quel point on peut être bête en concert ou dans un mouvement de panique ou dans ce genre de situation. Dès qu'on est nombreux, on donne son pouvoir de décision, une partie de son intelligence à la foule en général. En fait. C'est quelque chose que je trouve extrêmement angoissant, que j'aime pas du tout. C'est pour ça que j'évite généralement de me retrouver au milieu d'une foule parce que c'est pas quelque chose qui m'éclate. Parce que j'ai l'impression que la foule, c'est une sorte de macro-organisme qui rassemble plein d'autres choses et c'est quelque chose que je veux éviter à tout prix. Donc se diluer là-dedans, c'est quelque chose que je trouve, c'est vraiment quelque chose que je trouve étrange. Pour moi, la foule, c'est une créature étrange et la seule avec laquelle j'ai pas du tout envie de me frotter.
En même temps, on a choisi un métier où on a un métier de solitaire. Donc, déjà, à la base, on n'est pas des exemples. Hein. C'est-à-dire que nous, dès quoi. Et bien, vous venez ici, vous avez l'impression d'être dans un lieu étrange, c'est ça. Et on va là, j'ai fait un expert, voilà, c'est ça. Mais à la base, on a choisi des boulots de solitaire. On a choisi des boulots où, effectivement, écrire, c'est vraiment quelque chose où on est seul. Et dehors des salons, en dehors de la promotion. On voit quelques amis de temps en temps, mais c'est vrai que moi, je suis plutôt chez moi.
Vous êtes confronté en permanence à votre propre intégrité.
Absolument. Je m'y suis faite, je m'y suis habituée. J'ai pris un peu de temps, mais c'est vrai qu'on est rendu dans la foule, c'est l'endroit où j'ai vraiment du mal. Je suis content.
Est-ce que les réseaux sociaux ont changé cette notion d'isolement pour les auteurs? Je connais un peu tout sur Facebook.
On peut être seul en parlant aux gens, c'est plutôt une bonne chose, moi je crois. On peut choisir, en fait, les réseaux sociaux, ça offre le choix de dialoguer.
C'est une question de survie en même temps, c'est une question de survie sociale. Tu prenais donc l'exemple de Nouvelle-Zélande, bon là c'est carrément vraiment pour dire, voilà, si tu arrives un peu pas, tu as quand même tout intérêt à être cordial avec le voisin qui habite peut-être à 15 km. Ici, pourquoi pas, on peut tout à fait imaginer que la cordialité, sans paraître trop bisounours, la cordialité, l'aspect de la tolérance pourrait justement être devenir non pas la norme, même si je déteste ce mot, mais pourrait devenir au moins quelque chose qui serait beaucoup plus en vogue, et que ce soit avec le voisin 15 km ou le voisin à 20 mètres, pourquoi pas. Et je pense que de toute manière, tout le monde en bénéficierait. Par contre, pour revenir donc sur la question qu'on avait abordée avant, la question des réseaux sociaux, ce que je trouve extraordinaire là-dedans, c'est qu'en fait,
comme l'univers de Dritz dans ses grottes en dessous avec la reine, l'araignée, etc. Voilà. C'est vraiment un univers que j'ai trouvé à la fois pas si étrange que ça, mais captivant, vraiment, pour le coup. C'est ce côté ténèbres, sombre, et en même temps toutes les règles qui existaient, la cruauté, j'ai adoré la cruauté de cet univers.
Au point d'avoir envie d'y être ou...
Non, pas spécialement. Mais par contre, j'ai adoré le découvrir à travers le talent de l'auteur. Ouais.
Je dirais le lieu étrange par excellence, c'est Alice in Wonderland, vraiment le pays des merveilles avec Lewis Carroll qui réussit à manier absurde et merveilleux d'une manière qui pour moi est sans égale. Quoi.
Oui.
Non, pas vraiment envie d'y aller. Spécialement, vous tenez votre tête.
Oui, exactement.
Jean-Claude, il y a un lieu qui vous inspire.
Ouais, bon, il y a un lieu merveilleux, mais qui est un lieu, justement, qui n'existe pas, je regrette. J'ai un livre de chevet qui est Ulysse de Joyce, qui se passe à Dublin, un certain jour de juin, et j'ai visité et revu le Dublin, qui est une ville moche, à chier, et qui est vrai, qui est assez vraie. Moi, c'est une ville que je trouve moche, et qui est une ville dans laquelle. Dans lequel Joyce a été capable d'extraire une humanité et une qualité de livre, un bel endroit extraordinaire. Et je me dis, j'ai vraiment envie d'aller vivre dans le Dublin de Joyce, plutôt dans le Dublin de la réalité. Et la qualité de Joyce, c'est d'avoir extrait de ce Dublin un endroit qui est l'humanité dans son ensemble. Et ça, c'est un truc extraordinaire. Il y a ça, puis un autre endroit qui a été créé par une autrice canadienne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Esther Rochon. Et cet endroit, ce sont les enfers de l'âme. Et l'âme, elle a été une âme. Et ces enfers sont profondément humains, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est pas du tout le genre d'enfer qu'on peut imaginer. C'est pas un endroit où j'ai la persévérance non plus, du tout. Mais c'est un endroit dans lequel on se dit cette étrangeté vous colle à la peau quand vous avez lu le livre. Et pour être franc, j'en ai rêvé plusieurs fois la nuit de ces enfers-là, de m'y promener et de ne pas nécessairement y souffrir, mais d'y éprouver toute une gamme de sentiments que je n'avais pas l'habitude d'éprouver. Et ça, c'est une chose extraordinaire. Alors, entre d'un côté, le Dublin, où je me dis, il y a ces gens, il y a cette espèce d'humanité grouillante extraordinaire, il y a des scènes que je n'oublierai jamais, et puis il y a un premier chapitre qu'on aurait étudié dans les écoles, parce que si je savais écrire comme Joyce a écrit son premier chapitre, je serais vraiment bon écrivain. Et là, je me dis, entre ça et les enfers, ben, j'ai suffisamment d'endroits où aller dans ma tête pour tenir quelque temps.
Et alors, donc, on a passé en revue vos endroits préférés, enfin, en tout cas, inspirants. Et quels sont vos bestioles préférées? Quelles sont les bestioles que vous avez pu rencontrer dans vos lectures ou dans les films qui vous ont inspiré ou qui vous semblaient valables ou donnant envie de les connaître ou de les rencontrer? Oui. Non, pas pour moi. Justement, lesquels vous êtes dit non, mais c'est pas vraiment non.
J'étais en train de chercher celle qui est comestible, là-bas.
Non, ok. Bon, on a parlé du GGR, mais on n'est pas obligé de dire non, non. Je sais pas, t'as quelques heures devant toi pour qu'on déplore. Non, je dirais que, enfin, il y a toujours quelque chose dans les univers des écrivains, de toute manière qu'on a. Qui nous touche en particulier, qui nous émeut quelque part, ou qui nous fait frissonner, enfin bref, quelque chose qu'on ne se rend pas toujours compte quand on le lit, mais quand on y réfléchit, on se dit.